Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Notre marcheur de Compostelle quitte la Cantabrie et s'enfonce dans les terres, dans les Asturies. Cantabrie, école de frugalité. Parvenu à ce point du chemin, j'étais devenu un pèlerin accompli. C'est un état qui se traduit par quelques signes extérieurs et surtout un nouvel état d'esprit. J'ai déjà évoqué la saleté du marcheur, elle n'est pas inéluctable et elle n'est pas absolue. Certains pèlerins patentés sont les scrupuleux clients des douches mises à leur disposition dans les albergues. Le peu de vêtements dont ils sont en général chargés leur impose des lessives quotidiennes dont ils s'acquittent à peine arrivés à l'étape. Mais aux pièces d'habillement qui sèchent aux abords des refuges, on comprend que chacun se fait de l'hygiène une idée bien à lui et qui est rarement complète. Le t-shirt est assez universellement l'objet de soins quotidiens. C'est l'oriflamme qui flotte le plus à l'entrée des camps retranchés occupés par les pèlerins. Viennent ensuite les chaussettes. Les autres vêtements se font plus rares sur les cordes à linge et on en déduit facilement ce qui est porté chaque jour sans être lavé. Le pèlerin solitaire est évidemment le moins motivé pour faire des efforts de toilette. J'ai déjà souligné avec quelle rapidité je m'étais transformée en clochard céleste. Le parcours cantabrique avait achevé de m'installer dans la négligence. Barbe en broussaille, pantalon taché, chemise imprégnée de sueur recuite, j'étais bien calée dans ma crasse, éprouvant la jouissance d'être protégée par elle comme par une armure. Lorsqu'on est livré au monde sans toit ni carrosserie, lorsque l'on sent physiquement autour de soi l'infini des paysages, lorsque rien n'arrête le regard, quelques points cardinaux qu'il considère, lorsque le chemin s'étire à perte de vue devant et derrière, sans doute est-on rassuré de marcher environné par sa propre odeur, à laquelle semblent se réduire toutes les richesses dont on dispose encore. Les pèlerins, quand ils se rencontrent, gardent inconsciemment leur distance. S'ils s'approchent, les remugles de l'autre les convainquent qu'ils risquent d'être indiscrets, deux pas de plus et ils entrent chez quelqu'un. La portion cantabrique, après les beautés basques, a un autre mérite. Elle administre aux pèlerins, en voie de perfectionnement, une leçon supplémentaire d'humilité. Pour un peu, au début, il aurait cru que le chemin était à son service, tracé pour combler ses yeux. Quelques dizaines de kilomètres de bitume attendrissent cette chair encore trop ferme. Le pèlerin est là pour marcher, que cela lui plaise ou non, qu'il y trouve ou pas son content de paysage. Pipelines en ciment et usines, lotissements déserts et bandes d'arrêt d'urgence, carrefours giratoires et banlieues industrielles sont nécessaires pour devenir un vrai pèlerin, débarrassé de toute prétention touristique. Giflé par ces épreuves, le marcheur se sent d'abord groggy. Puis il s'accommode de son sort, commence alors une phase nouvelle du chemin. Elle ne réclame plus l'enthousiasme, mais l'habitude et la discipline. Le pèlerin obéit au chemin, comme il l'a fait sans s'en rendre compte depuis le début, mais cette fois, il s'exécute sans murmurer. Il a trouvé son maître. Chaque matin, il chausse ses souliers comme on enfile un bleu de chauffe. Ses pieds se sont adaptés à ses semelles, ses muscles se sont déliés, la fatigue lui obéit et s'efface au bout d'un nombre connu de kilomètres. Le pèlerin pèlerine, comme le maçon maçonne, comme le marin part en mer, comme le boulanger cuit ses baguettes. Mais à la différence de ses métiers que récompense un salaire, le pèlerin n'a aucune rétribution à espérer. Il est un forçat qui casse ses cailloux, une mule qui tourne en rond autour de son puits. Cependant, l'être humain est décidément fait de paradoxes et la solitude permet de bien les observer. le Jacquet s'extasie de trouver au fond de cette servitude une liberté inédite. Le forçat se réjouit quand, pendant un instant, il n'est pas enchaîné, et la mule est toute heureuse si on l'amène sur un chemin droit. De la même manière, condamné au pire, le pèlerin se repaît de la moindre consolation. Un rayon de soleil le sèche tandis qu'il s'est trempé jusqu'aux os en marchant dans les flaques d'un bord de route. Le voici radieux. Il s'arrête dans un affreux bistrot près d'une station-service et merveille. Le jambon est délicieux et le pain moelleux. Il se pâme. Il trouve un arbre pour s'abriter du soleil du midi et les chiens qui aboient à la mort dans la ferme derrière lui sont retenus par une bonne clôture. Il ferme les yeux de bonheur. La Cantabrie enseigne la frugalité et contraint le marcheur à mieux user de ses sens pour découvrir à la surface d'une réalité sans grâce des risées de bonheur, des fleurs de bonté inattendues. Un jour, après un interminable trajet sur une route rectiligne écrasée de chaleur, je suis entrée dans la mairie d'un village pour récolter mon tampon. Car avant de se remplir le ventre, le pèlerin accompli sait qu'il doit d'abord nourrir sa crédentiale. Les bureaux étaient déserts, encombrés de papiers. En m'enfonçant dans les couloirs, mon sac sur le dos, j'avais conscience d'être de plus en plus déplacée. Soudain, je tombe sur une employée. Elle est confuse. Elle m'explique que les pèlerins ne s'arrêtent jamais ici. Il n'y a pas de seau pour eux. Je lui demande de m'excuser, je m'apprête à prendre la fuite, mais elle m'invite à rester. Elle farfouille dans un bureau, dans un autre. Enfin, elle trouve un tampon quelconque. Même manège pour dénicher un encreur. Elle disparaît. Je reste plantée là. Les dossiers empilés me regardent sévèrement et me font le reproche muet de souiller ces beaux bureaux avec mes pieds malpropres et mon t-shirt collé par la transpiration. Enfin, la femme revient. Elle me rend ma crédentiale tamponnée et, de l'autre main, me tend un petit porte-clé aux armes de sa ville. J'imagine qu'on agissait de même après la guerre avec les prisonniers qui rentraient chez eux. Il me semble que nous sommes dans un film de Gérard Houry et je m'efforce de sourire avec le même air que Bourville dans La Grande Vadrouille. Il y a quelque chose de tendre et en même temps de puissant dans cette rencontre. Un instant, j'ai eu envie d'embrasser ma bienfaitrice et il n'est pas impossible que la même idée lui ait traversé l'esprit. Car un homme libre qui croise votre vie à l'heure de midi, si sale fut-il et qui sait, justement parce qu'il l'est, peut faire naître de troubles désirs chez une employée de mairie. Mais je me suis rappelé soudain que je n'étais qu'un forçat évadé. Le chemin m'a saisi par les épaules et ramené à lui. J'ai pendu le porte-clés sur une boucle de mon sac. Il y est toujours.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.